Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, ça c'est envie d'élargir ce regard sur le monde à travers des rencontres que je peux faire sur les routes. Donc j'aime bien donner la parole à des voyageurs, des écrivains, des réalisateurs, tous ceux qui sont en lien avec le voyage intérieur, extérieur, le mouvement. Donc avec moi, Mehdi, là je me retrouve dans un endroit, on est quelque part dans le Beaujolais, dans un centre de yoga, Hridaya. Hier soir, tu animais une soirée de chant, de bhajan, de kirtan, donc on parlera un petit peu de ça dans cette émission. Mais j'ai envie de savoir qui tu es et quel est ton parcours de vie et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au yoga et à la méditation.
Qui je suis? C'est une grande question.
Je crois que c'est la question qu'on pose ici, hein, c'est ça. On me disait qu'il y a trois piliers ici, donc voilà. Mehdi, qui es-tu? Vu que ça fait 4 ans que tu bosses dessus, peut-être que tu as une réponse.
La réponse traditionnelle, c'est je suis pure conscience, pure existence et pure félicité. Mais la réponse la plus personnelle, ben, je suis un chercheur de vérité, hein, comme je pense toutes les personnes qui s'intéressent à la spiritualité. Et j'ai découvert Hridaya sur ma route il y a à peu près 5 ans. Hridaya, ça veut dire le cœur spirituel. Donc l'approche pour venir se déposer dans notre essence, dans la présence, c'est à travers le cœur. Et c'est ça, moi, qui m'a tout de suite touché et intéressé. C'est quelque part, cette présence, elle est amour. Et de venir se déposer, goûter de plus en plus à cet amour qui est pas personnel, mais qui est universel et qui est à la source de notre être. Mais si je remonte un petit peu dans le temps...
Oui, on va faire ça, parce que Hridaya, on va en parler, tu y as passé 4 ans et tu y es encore, mais venons peut-être à ton enfance, voilà, à quel moment est-ce que tu as croisé le chemin de la spiritualité?
Mon enfance, je n'ai pas grandi dans une famille où la spiritualité était très vivante, mais j'étais plus artiste, j'ai fait des études de théâtre, à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et c'est plus à travers l'art que j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres dimensions de la conscience. Je pensais que c'était juste des imaginaires, mais je me suis rendu compte après que c'était plus des espaces, moins matériels que cette table sur laquelle on est. Voilà, moi j'ai une enfance un peu compliquée, hein. Si je remonte dans l'enfance, à 20 ans j'avais plus de parents autour, donc il a fallu que je trouve du sens à cette vie, simplement pour continuer à vivre et pour pas abandonner. Et ce qui m'a permis de survivre à ça, c'est l'art, le théâtre, l'expression artistique. Et puis je me suis rendu compte que cette expression artistique, elle était encore au service d'un manque, d'un vide, d'une quête de sens. Donc il a fallu encore que je fasse un pas en arrière et j'ai eu l'appel de la jungle, l'appel du Pérou et des plantes médecines. Et alors que j'étais un comédien, auteur, metteur en scène parisien qui sortait 6 jours sur 7, je me suis retrouvé dans la jungle au Pérou et j'ai commencé à faire une retraite de 2 mois avec un chaman, sans vraiment savoir ce que je foutais là-bas, parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était que la spiritualité, mais juste... il y avait un appel de mon âme à aller dans la jungle.
Je veux bien que tu reviennes sur cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, hein, des cérémonies cacao, des plantes médecines. Je trouve qu'il y a un engouement autour de ça qui arrive en Europe. Tu parles aussi de sens, cette notion de quête de sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le système ne nous nourrit plus. Hein. On est là à courir après le temps, avoir le temps de rien faire. Et beaucoup de gens font dans leur vie un switch à 80 degrés pour remettre plus de sens et de cohérence. On se retrouve souvent dans un système où on se rend compte qu'on s'est adapté. Un système adapté à des contraintes sociales ou familiales, mais sans forcément avoir pris le temps de savoir qui on était vraiment et de s'écouter. Hein. Donc cette notion de sens revient très souvent dans les interviews que je fais, où les gens me disent « je suis parti en quête de sens ». Toi, apparemment, c'est le Pérou, l'appel du Pérou. Des plantes médecines, de l'ayahuasca. Donc je veux bien qu'on ouvre un peu ce chapitre-là. Comment est-ce qu'on se retrouve de la banlieue parisienne dans le monde du spectacle à partir au Pérou?
C'est une bonne question. Moi, c'est une expérience qui m'a amené à entrer dans une écoute différente. Quand j'avais 20 ans, j'ai pris ce qu'on appelle des Hawaiian Babywood Rose. Donc c'est des graines qui sont des effets psychédéliques. Et j'ai fait deux voyages et qui étaient juste incroyables. Et qui m'ont ouvert à une autre manière d'être au monde. Qui m'ont fait comprendre que les réalités matérielles ou les croyances matérialistes que j'avais n'étaient peut-être pas finales, qu'il y avait peut-être autre chose. Et à la fin d'un de ces voyages, les plantes m'ont donné, ça fait un peu perché, hein, mais bon, je pense que c'est ok ici. Les plantes m'ont dit, si tu veux travailler avec nous, tu peux, mais seulement dans notre environnement naturel, sinon tu ne vas jamais revenir. Parce que je suis très sensible à ces énergies, donc je suis resté bloqué quand même après ces voyages. Et j'ai jamais oublié ce rendez-vous. Donc les 6 années qui ont suivi, il y avait quelque chose qui m'appelait. Enfin, la graine a été déposée dans cette expérience. Elle était aussi nourrie par des livres que je lisais. Ben, par exemple, Siddhartha d'Hermanès, c'était mon livre de chevet. L'alchimiste de Paulo Coelho, quand j'avais, je crois, 10 ans, je l'ai lu et ça m'a choqué. Pour en citer quelques-uns. Mais pour moi, c'était des romans, c'était des fictions. Encore une fois, c'était de l'imaginaire. C'était pas de... Je savais, enfin, il y avait mon âme qui reconnaissait qu'il y avait la possibilité d'une vie initiatique, mais ça restait des romans, tu vois. Et voilà, cette graine qui a été posée dans mon âme, dans ma conscience, dans mon cœur, quand j'avais ces 20 ans, bah, elle a fleuri quand j'avais 26 ans et que j'ai décidé de partir pour... c'était la jungle, hein. C'était pas du tout prendre des plantes ou quoi que ce soit, il fallait que j'aille dans la jungle. J'étais obsédé par la jungle. Et puis quand j'ai pris mon billet, après j'ai fait des rencontres où certains de mes connaissances revenaient du Pérou, ils avaient travaillé avec un chaman. Et du coup, je leur ai demandé de me parler de leur expérience. On dit que c'était la chose la plus difficile qu'ils avaient jamais faite de leur vie. Et je dis, en fait, c'est ça. C'est ça que je recherche, c'est de tout arrêter, un peu comme tu disais. Quand tu fais une diète, enfin moi c'était en 2011, donc il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, quoi. J'étais dans ma petite cabane, on était 3, et il n'y a rien à faire. Et puis le soir, il y a un chaman qui vient te voir, il fait nuit, et il dit « suis-moi » en espagnol. Je parlais à moitié espagnol. Puis il t'amène dans une maloca, et là, t'es dans le noir, et puis il donne une boisson assez amère. Et puis moi, j'ai fait face à des choses auxquelles je ne pouvais pas faire face. Hein. C'était une grande purification. Pas du tout blissful, pas du tout félicité, mais une grande purification... De ma psyché, de mon cœur, toutes les choses que je voulais pas voir, de toutes les souffrances que j'avais pas intégrées. Et puis c'était juste le starting, le point d'ouverture de ma conscience à d'autres dimensions.
Donc toi, quand t'es parti au Pérou, c'était vraiment pour vivre l'expérience de la jungle, et c'est là-bas où tu rencontres ce chaman et tu découvres aussi l'existence de cette plante, ou de cette association de deux plantes, hein, l'ayahuasca, qui est une liane et une racine, je crois, c'est ça. Et donc raconte-nous un peu cette histoire-là, cette expérience-là, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'hallucination? Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de connecter à d'autres mondes? Comment est-ce que tu expliquerais ce que c'est que l'ayahuasca à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler?
C'est un des plus grands cadeaux que la Terre peut offrir aux êtres conscients, aux êtres humains, dans le sens où c'est un révélateur de la conscience, c'est une médecine d'abord, c'est pas une drogue, hein, c'est une médecine. La différence entre une drogue et une médecine, une drogue, on va dire que ça nous permet d'échapper à la réalité. La médecine, elle nous amène à rencontrer la réalité dans toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions. Et l'ayahuasca, elle est différente pour chacun et chacune en fonction de notre parcours de vie et de nos sensibilités. Moi, ce qu'elle m'a amené, c'est de mettre mes ombres en face de moi pour que je puisse les voir. Et puis après, elle m'a montré un chemin de paix avec ces ombres, un chemin d'amour, et d'essayer de me réconcilier avec toutes ces parties de moi-même. Mais ça ne s'est pas fait juste dans une dimension psychologique, comme on pourrait le faire en thérapie, parce que je les voyais comme je te vois ici, ou je revoyageais dans des souvenirs où il fallait que je fasse un travail particulier dans ces souvenirs. Donc elle m'a permis de faire de la place. Elle m'a permis de faire de la place en intégrant toutes ces parts d'ombre. Et puis aussi, elle m'a montré que l'amour est une énergie universelle. Moi, à cette époque, l'amour, j'aimais mes amis, mes partenaires ou ma famille, mais je ne savais pas que je pouvais t'aimer alors que je ne te connais pas, aimer le chant des oiseaux, que simplement l'amour, ça nous traverse. L'amour, c'est aussi notre essence. Donc, elle m'a montré ça, que l'amour, ce n'est pas personnel, ça nous traverse et que c'est au final, c'est ça qui guérit. C'est l'amour qui guérit.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc tu te retrouves au Pérou, dans cette maloca, à prendre l'ayahuasca, et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas y rester? Donc tu parles aussi de diète, hein, parce qu'il y a toute une préparation qui est mise en place, et pas on arrive et on boit la plante, il y a quand même quelque chose... voilà, tu parles un peu de cette préparation-là et de ce qui s'y passe après.
Ben après, en fonction des sensibilités de chacun, soit vous pouvez vous intégrer rapidement votre expérience, et puis... vous retrouvez une réalité un peu plus ordinaire, ou soit vous restez un peu ouvert et vous êtes dans cet entre-deux. Et moi, c'était le cas. C'était tellement fort que voilà, même sans prendre la plante, j'étais dans ces mondes intermédiaires. Donc je suis resté un mois de plus, simplement pour intégrer. Et puis après, c'était un voyage de 6 mois. Donc pendant les 4 mois qui ont suivi, j'étais juste dans la nature à méditer. En fait, j'ai appris aussi la possibilité d'être en silence, de voir qu'il pouvait y avoir de l'espace entre les pensées. C'est là où j'ai commencé à lire mes premiers livres spirituels, comme Le pouvoir du moment présent, par exemple, qui m'a beaucoup touché. Donc après, c'était un temps d'extrême sensibilité à tout mon environnement. Par exemple, j'étais à moitié alcoolique, je mangeais de la viande, j'avais jamais réfléchi au fait d'être végétarien, je suis revenu, j'étais vegan, je buvais plus d'alcool. J'étais comédien, auteur, metteur en scène, j'ai tout arrêté quand j'étais là-bas, j'ai voulu repartir de zéro. Et voilà, ça s'est fait dans ces 6 mois, graduellement, mais en même temps de manière assez intense. Et c'était ce qu'on appelle aussi dans la chrétienté la via purgativa, c'est le moment où on purifie, le moment où il fallait que je me désintoxique, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, que j'enlève, en fait, que je fasse de la place. Donc j'ai enlevé beaucoup de choses, et c'est vraiment pas une fin en soi, parce que après je suis revenu à Paris, et 6 mois plus tard, et j'étais complètement paumé, mes amis me prenaient pour un fou, c'était difficile. On avait une vie sociale dans les bars, je ne vivais plus, donc c'était vraiment une période compliquée. Mais ça m'a permis au moins de revenir dans un espace d'écoute. C'est comme si j'étais une bille lancée en mouvement dans la vie depuis que je sais pas, quand on a 15 ans, on lui dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je veux être comédien, et puis il y avait cette ligne qui s'est tracée dans les 10 années qui ont suivi, et là j'ai décidé de tout arrêter et de ne rien faire. Et quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, je disais rien. Je dis, on peut pas rien faire. Je dis si, on peut rien faire. Et je voulais juste écouter ce que la vie voulait vivre à travers moi.
Mais là, c'est dur parce que du coup, tu marches à contresens de la marche du monde, hein, où tout le monde, justement, ne veut rien faire alors qu'on est là à te dire, effectivement, première question qu'on pose, c'est tu fais quoi dans la vie? On est quand même une société qui s'affaire, qui s'agite dans toutes les directions. Donc comment est-ce que toi, tu vis ce décalage à ton retour du Pérou? C'est pas simple de se réintégrer dans un système qui, finalement, ne nous correspond plus vraiment.
Non, c'est pas simple du tout, et je me suis plus désintégré qu'intégré dans ce système. Non, c'était un moment difficile. C'était un moment difficile parce que je voyais la difficulté de rester en lien avec mes amis pour qui l'alcool était un des moyens du lien, et de pas vouloir faire table rase du passé. Je voulais rester en lien parce que c'est des gens que j'aime, c'est des gens qui m'aiment. Donc comment on fait pour prendre soin des expériences que j'ai eues, et en même temps ne pas renier mon passé, ce qui m'a amené à ces expériences. Donc il y a eu des mois et des mois, même presque des années, hein, où il y a eu une friction entre le Mehdi spirituel et puis le Mehdi... enfin, on est tous spirituels, hein, mais celui avant ces expériences-là. Après, j'ai créé une nouvelle communauté à Paris, j'ai commencé à rencontrer des nouvelles personnes qui avaient des aspirations similaires. Mais il faut prendre soin de ça. Il faut prendre soin de ce rien, de ce silence, même s'il est très inconfortable. Parce que généralement, en tout cas pour moi, quand je commençais ma vie spirituelle, j'avais l'impression que j'avais tout compris au bout de 6 mois. Donc ça aussi, il faut laisser aller. Et j'ai quand même, à un moment, j'ai eu besoin de me réintégrer, donc de rentrer un peu dans le service au monde. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai eu un CDD à la Fondation Louis Vuitton. J'étais à la boutique de musée, je serais avec une bande de potes, c'était magnifique. Et c'était parfait parce qu'il fallait à un moment que je me remette en mouvement, que j'ai un cadre, un emploi du temps, Alors, on m'a proposé un CDI. J'ai dit, je ne peux pas travailler plus de 3 jours par semaine. Donc, j'ai négocié des conditions qui ont fait que ça a duré 2 ans. Et c'était 2 ans qui m'ont permis d'intégrer cette expérience de la jungle avant de repartir en voyage. Mais il m'a fallu 7 ans pour intégrer ces 6 mois de voyage en Amérique latine. Une fois que je suis revenu aussi pour continuer, forcément, il y a l'appel de repartir. Parce que j'arrive à Paris, c'est hyper inconfortable. J'ai aucun repère, je me sens complètement perdu. Donc je vois la partie en moi qui veut fuir cette réalité, fuir d'associer, de réintégrer la vie à Paris et la sensibilité qui s'était éveillée en moi. Et puis une personne que j'ai rencontrée, qui est devenue une amie après, m'a dit que si je repartais avec ces peurs, j'allais les trimballer partout avec moi. Il fallait que je fasse la paix avec Paris avant de pouvoir voyager à nouveau. Ça m'a pris 7 ans. Au bout de 7 ans, j'étais très heureux à Paris. Je faisais ma danse, danse médecine, danse consciente. J'avais une communauté super. J'y vais à côté des buts de Chaumont. Et le moment où j'étais bien, les portes du voyage se sont réouvertes. Et on m'a dit, OK, maintenant, tu peux voyager à nouveau.
Qui c'est qui te l'a dit? C'est les plantes aussi qui t'ont parlé?
Non, plus de plantes pendant 7 ans. Non, il a vraiment fallu... Il a vraiment fallu un long temps d'intégration. Donc non, c'est l'écoute, hein, l'écoute subtile, l'écoute du cœur, la méditation... l'intuition en fait, hein. Juste de vivre depuis cet espace d'intuition où voilà, vous pensez j'aimerais bien aller en Inde, c'est fermé, en Asie c'est fermé, et puis à un moment vous pensez à l'Inde et votre cœur se met à s'emballer et vous voyez que tout est ouvert. Donc j'ai dit ok, c'est le moment de démissionner.
Et donc tu démissionnes de ton boulot chez Louis Vuitton pour partir en Inde, c'est ça?
D'abord en Thaïlande et puis en Inde, ouais. Et c'est là où j'ai commencé ma pratique du yoga, de la méditation. Et voilà, j'avais l'appel, je sentais qu'il y avait quelque chose dans le yoga qui m'appelait depuis les profondeurs. Je n'avais pas vraiment envie de pratiquer une fois par semaine à Paris, j'avais jamais pratiqué, hein. C'est toujours un peu étrange comment le temps fonctionne. Je sentais que je voulais déjà y consacrer ma vie, donc je suis parti faire des retraites de yoga et de méditation en Asie.
Donc en Thaïlande, tu arrives où? Tu arrives à Koh Phangan?
Voilà, j'arrive à Koh Phangan, Agama avant le crash de cette école. Qui avait beaucoup d'ombre, hein, ça c'était assez évident, mais qui avait un enseignement aussi sur le yoga de qualité. Et des retraites de Theravada, bouddhiste aussi en Thaïlande. C'est là où j'entends aussi parler de Hridaya, où j'apprends que Hridaya ouvre une école en France, donc j'étais assez content. Et voilà, Rishikesh, Dharamsala, Varanasi, voilà, je visite quelques endroits sacrés de l'Inde, et puis surtout je commence une sadhana, je commence ce qu'on appelle les tapasya, d'avoir une pratique régulière de yoga, de la méditation, à lire les textes sacrés et de venir m'interroger, goûter, sentir qu'est-ce que c'est que ce yoga.
Donc avant de parler de la suite de Hridaya, tu me parles de Agama et de Koh Phangan. Je veux bien que tu reviennes un petit peu sur ce qui se passe sur cette île dans le golfe de Thaïlande à Koh Phangan, parce qu'on entend parler des full moon, hein, des soirées full moon, mais il y a une autre partie de l'île où il y a un côté beaucoup plus développement personnel, spiritualité, vegan, yoga. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de voyageurs, de Français qui se retrouvent là-bas à Koh Phangan pour apprendre, découvrir plein de choses, notamment autour du yoga, du tantra et de la spiritualité.
Oui, c'est une île qui est magnifique. C'est une île qui a été, j'ai pas envie de dire des bêtises, je suis pas historien, mais en tout cas la légende qu'on entend là-bas, c'est des moines bouddhistes qui, il y a un roi de Thaïlande qui venait y passer du temps, des moines bouddhistes qui sont posés parce qu'il y a beaucoup de cristaux de quartz rose dans les fondations de Koh Phangan. Donc on dit que c'est un vortex énergétique, c'est un lieu d'énergie, de healing, un lieu aussi propice à la guérison du féminin. Donc naturellement, ces espaces où il y a des énergies particulières, ça vient attirer des chercheurs. Et il y a une école qui s'appelle Agama Yoga, qui est malheureusement connue pour un grand scandale qui a éclaté. Mais toujours est-il qu'il y a peut-être 20 ans, ils ont commencé cette école qui est devenue une des plus grandes écoles de tantra. Et bien sûr, ça a attiré beaucoup de chercheurs spirituels et du coup, d'autres centres se sont ouverts, des lieux de méditation, des restaurants, tout ce qui est avec une communauté de chercheurs spirituels. Aujourd'hui, je ne suis pas allé depuis 10 ans, mais en tout cas, je sais que c'est un lieu où, effectivement, comme tu disais, dans le sud de l'île, il y a les full moon parties où les gens se défoncent la tête pour oublier. Et un peu plus vers le cœur de l'île, vers Sri Thanu, il y a beaucoup de chercheurs spirituels, de kirtan, de bhajan. Et comme dans tous ces lieux qui deviennent un peu un hub de la spiritualité des digital nomades, il y a souvent un peu le pire et le meilleur. Mais en tout cas, c'est un endroit où on peut rencontrer beaucoup de guérison et de belles choses.
Donc à ce moment-là, tu mets le théâtre et les arts complètement de côté. Là, c'est vraiment maintenant ton parcours personnel et spirituel qui prédomine.
Complètement. Juste avant de commencer cette diète, j'avais écrit une phrase sur mon carnet. C'était « J'ai consacré toute ma vie à l'art. » Enfin, toute ma vie, en tout cas, les 10 dernières années. Tout ce que je faisais, en plus en tant que comédien, on est un peu dissocié parce qu'on... Tout ce qu'on sent, on le répertorie pour potentiellement le jouer, ou quand on écrit pour comment je me sens là, comment je peux le transformer en art. Donc l'art, c'était vraiment le centre de toutes mes expériences. Et puis j'ai décidé de mettre ma vie au centre, en fait, de mettre ce qui suis-je. Je me suis rendu compte, je ne savais même pas qui était ce gars qui écrivait des pièces de théâtre. J'étais là, c'est qui, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette vie? Et du coup, pour ça, il a fallu mettre l'art de côté et puis mettre ce qui suis-je au centre.
Qui suis-je ? Donc voilà, tu te retrouves à Copenhague. Tu entends parler de Ridaya, c'est ça ? Un centre qui ouvre en Europe. Donc quelle est la suite après la Thaïlande ? J'entends que tu pars en Inde. Tu parles de sadhana. Je veux bien que tu me parles aussi de ce que c'est qu'une sadhana. C'est là-bas où tu découvres peut-être les kirtans, les bhajans, je ne sais pas. Donc voilà, avant le retour en France, parle-nous de la partie ou du chapitre Inde.
À l'Inde... L'Inde, c'est la... Enfin, moi, ce qui me vient, c'est ma mère spirituelle. C'est une mère qui m'accueille toujours avec des bras grands, grands ouverts, avec un amour incroyable et qui me fait toujours partir avec un grand coup de pied aux fesses. Ce que je découvre à l'Inde, c'est tout à coup... Il y a une profondeur. Une vie qui est consacrée pour les sadhus, pour certaines personnes, à cette quête spirituelle. C'est comme si tout à coup ma démarche spirituelle devient sérieuse. Que je me rends compte que voilà, Copenhague, c'est magnifique, c'est bien, on va au bord de la plage, on médite, on chante, on est content. Et tout à coup, en tout cas moi, je me suis assis devant le Gange à Rishikesh et je voulais partir en courant face à l'énergie spirituelle qui était là, à la présence qui irradiait depuis les montagnes. Et tout à coup, c'est comme si... Ouais, c'est comme si je suis rentré en spiritualité ou de manière beaucoup plus consciente et sérieuse. Et puis aussi, de voir, il n'y a pas de chemin, en même temps il y a un chemin, mais de voir, voilà, qu'est-ce que c'est que des vies consacrées à ça. Moi, je suis assez intense dans ma personnalité, donc l'Inde, ça m'a complètement cramé, parce que je pratique toute la journée, je ne sais pas trop comment trouver le juste milieu. Mais... L'Inde m'a rendu humble, en tout cas contribue à me rendre humble. J'étais encore peut-être il y a 2 ans et je suis allé à Tiruvannamalai pour rendre hommage à Ramana Maharshi, qui est une figure essentielle de Ridaya. Et voilà, j'ai l'impression que je pourrais rester 3 mois, mais au final, au bout d'un mois et demi, je peux plus, parce que c'est tellement intense pour mon âme. C'est tellement intense pour mon âme. Donc l'Inde, j'y retourne tous les 2-3 ans pour faire des pratiques intenses et pour me nourrir de cette énergie spirituelle qui est juste incroyable.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et la jungle et le Pérou et les plantes médecines, du coup, c'est vraiment complètement derrière toi ? Ou est-ce que tu fais un pont entre la spiritualité indienne et ce qu'on retrouve dans les forêts amazoniennes ?
Non, c'est plus derrière moi et en moi. Pour l'instant, c'est pas intégré avec ce que j'ai développé ces dernières années. L'ayahuasca, c'est... Enfin, je peux en pleurer hein, si je me pose vraiment dans l'espace de mon cœur où je peux sentir la médecine que j'ai reçue. Donc, il y a une gratitude éternelle, incroyable. Mais il y a eu la volonté d'être autonome, en fait. De simplement de s'asseoir en silence et d'écouter. C'est un peu revenu dans ma vie il y a 2 ans. Avec le Santo Daime, une autre tradition où on chante quand on prend la plante, donc il y a un autre focus. On chante des kirtans avec l'ayahuasca, ce qui est assez incroyable. Mais c'est un autre pointeur. Là, je lui demande de m'apprendre à prier, parce que c'est la prière, moi, qui est maintenant au centre de ma vie. Mais c'est vraiment très, très sporadique et en soutien. Mais voilà, c'est plus du tout le centre de ma sadhana, donc de ma pratique spirituelle.
Avant, tu parlais de quête spirituelle. Qu'est-ce que c'est pour toi qu'une quête spirituelle? Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi?
Une quête spirituelle, pour moi, c'est juste une quête de sens. Ce corps nous est offert, cette vie nous est offerte, et qu'est-ce qu'on fait avec ce cadeau de la vie? Et au final, ma question, moi, c'est plus du tout de l'ordre de la quête. Hein, aujourd'hui, c'est de comment je peux servir. Comment je peux servir cette vie? Comment je peux servir... je vais utiliser un grand mot, peut-être qu'on l'utilise pas trop en radio, mais Dieu. J'ai mis des années avant de me réconcilier avec ce mot, mais maintenant c'est un mot qui me touche, parce que pour moi la vie c'est ça, c'est l'expression de cet amour divin. Et ma quête, si tu veux, elle a été résolue dans cette question: comment je peux servir? Je cherche rien en fait, si ce n'est d'être au service. Et pour être au service, il faut que je sois vide, parce que sinon c'est Mehdi qui sert Mehdi. Donc ma pratique spirituelle, elle m'aide à devenir de plus en plus transparent pour être à l'écoute de ce que la vie veut faire de moi.
Alors cette notion d'être au service, c'est hyper intéressant. Toi, tu es familiarisé avec ça, hein, parce que tu as passé du temps en Inde. Là-bas, on fait du seva, c'est quelque chose de très fréquent, hein, d'être au service d'eux. En Asie aussi, à travers le bouddhisme, tous les moines ou tous les enfants passent par le temps pour être au service d'eux. Mais cette notion de service, c'est quelque chose qui est peu ou mal compris ici en Europe. Qu'est-ce que tu entends par être au service? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça provoque en toi?
Ah, c'est une belle question. Juste pour faire un pont avec ce lieu, Hridaya Yoga, c'est un lieu qui est tenu par des karma yogis. Donc, karma yogi, c'est exactement ce que tu disais. C'est le yoga de l'action désintéressée. Donc, on offre les fruits de nos actions au cœur spirituel. Mais ça veut dire qu'on est tous bénévoles. C'est un peu comme on pourrait dire des bénévoles, seulement il y a cette dimension d'offrir son service à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc c'est là, moi, j'ai appris ce que c'était que le service en étant à Hridaya. C'est très inconfortable au début, parce qu'on a l'habitude de vivre notre vie depuis le jeu, depuis qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire. Et vous arrivez dans un environnement, vous ne choisissez pas ce que vous faites, vous ne choisissez pas le service dans lequel vous allez servir. Moi, j'étais en cuisine pendant un an et je ne sais pas cuisiner. Vous ne choisissez pas ce que vous mangez, vous ne choisissez pas à quelle heure vous vous levez, vous ne choisissez rien, vous ne choisissez pas, en fait. Et au début, ça crée une friction, parce que bien sûr, on a envie de choisir, on a envie de suivre nos désirs, et tout à coup, on est pris dans un courant qui est bien plus grand que soi. Donc il y a une bataille intérieure. Mais le moment où moi, je me suis abandonné à ce courant, ben, je me suis rendu compte qu'il y a une joie immense de simplement offrir mes énergies à quelque chose qui est plus grand que moi. Donc là, c'est cette école, mais peu importe, hein, c'est pas pour parler de Hridaya. Le service, c'est d'offrir son énergie de vie, sa vie, à quelque chose qui est plus grand que soi. Donc ça peut être l'écologie, ça peut être n'importe quelle chose qui fait vibrer notre âme. J'aime bien prendre cette image, vous voyez les mandalas, ces figures géométriques où il y a souvent un bindu au centre, il y a un centre, et puis imaginez comme un grand cercle tout autour, et on nous a appris à vivre notre vie depuis ce centre. Hein, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est moi-je. Et qu'est-ce que ce serait si on vit notre vie depuis la périphérie, et puis au centre on met la vie elle-même? On met ce qui nous touche le plus, on met la terre, on met l'amour, on met l'art, on met... Et puis on est au service de ça. Et pour moi, faire ce pas de côté, qu'on entend aussi beaucoup dans le soufisme, la joie, c'est juste faire ce pas de côté, ça permet de goûter à une joie qui est pas personnelle, une joie qui est beaucoup plus stable et ancrée, parce qu'on vit plus sa vie selon nos propres désir, projection, mais on essaye de vivre une vie qui a du sens et qui est offerte.
Mais comment sortir de ce moi-je, parce qu'effectivement tout est fait pour qu'on se construise autour d'une identité, autour de notre ego.
Je pense que c'est la question de la joie, la question de est-ce que je suis heureux. Et si on se rend compte qu'en ayant fait, avec ce conditionnement, on arrive à être pleinement épanoui, heureux et avoir une vie formidable et riche, y a rien à changer.
Mehdi, merci. Merci à toi.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.